RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France jusqu'à 18h aujourd'hui pour cette 14e étape du Tour de France. Nous remontons le couloir rhodanien en direction de Villars-les-Dombes, le parc des oiseaux, le principal parc ornithologique de France dans cette belle région des Dombes, la région des mille étangs. On va évidemment revenir sur la course car nous sommes à 66 km de l'arrivée. Le peloton qui a pris beaucoup de retard aujourd'hui, il roule avec vent de face et a pris beaucoup de retard. Fred, on fait un point sur la course avec une situation inchangée depuis quelques heures maintenant, toujours 4 hommes en tête, le top course.
La tête de course sur les routes du département de l'Isère, une route particulièrement ensoleillée aujourd'hui, 14e étape de transition entre Montélimar donc et ce très joli parc des oiseaux, un quatuor de tête composé d'un Français à l'initiative de cette échappée, Jérémy Roy, l'ancien super combatif du Tour de France, Jérémy Roy, le tourangeau de la FDJ, qui est accompagné de l'Italien Cesare Benedetti, un coureur de la formation allemande Bora. Alex Ose, l'Américain, est également là, lui le coureur de la formation Cannondale, et Martin Helmiger, l'ancien champion de Suisse de l'équipe Yam Cycling. Ces quatre-là comptent une avance qui diminue au fil des kilomètres. 2 minutes 20 au dernier pointage. Ce sont les équipes de sprinteurs qui emmènent le peloton sur un rythme piano. On ne reviendra pas illico presto sur les échappées. On en aperçoit en ce moment même Lars Hyttingbakk, un coureur de l'équipe Lotto Soudal, à l'avant du peloton. Lars Hyttingbakk, coéquipier d'André Greipel, pour une arrivée au sprint a priori aujourd'hui ici à Villars-les-Dombes. Les Sky de Christopher Froome, le maillot jaune, sont regroupés autour de leur leader et occupent les places de 4 à 11 on va dire dans ce peloton. Vous voyez que même en journée de transition on est aux aguets et particulièrement vigilant chez les coéquipiers du leader du classement général.
Tiens, aujourd'hui nous vous offrons un pack de 2 places VIP pour assister à la 20e étape du Tour qui aura lieu samedi prochain le 23 juillet entre Megève et Morzine. Au programme, accueil à l'espace VIP, déjeuner, passage de la caravane et des coureurs sur la ligne d'arrivée. Vous devez être majeur, attention, hein, pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 732-16. Il suffit d'envoyer le mot Tour. Bonne chance.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
Et avant d'ouvrir la musette de la Dream Team dans un instant, on va quand même aller faire un tour en tête de course où Georges Quirino a fini sa sieste, hein, ça tombe bien. Georges, des infos concernant le vent, est-il toujours aussi important, ouais, le vent?
Là on est sur de longues lignes droites désormais dans le département de l'Isère en direction du sprint intermédiaire de Lafayette dans 3 km pour les 4 coureurs de tête dont Jérémy Roy. On est sur une route qui n'est pas du tout à l'abri du vent et le vent a changé de côté en tous les cas vu que la route a pris notre direction. Gros vent latéral qui nous vient de la gauche désormais, presque 3 quarts d'eau pour les hommes de tête et pour le peloton qui va arriver derrière et qui va peut-être devenir un peu nerveux. Voilà, ils se mettent en position d'éventail maintenant les 4 coureurs de tête pour se protéger de ce fort vent latéral à l'approche du sprint intermédiaire. Jérôme nous en avait parlé tout à l'heure.
Ok, merci Georges. Oui, il y a un petit vent de côté mais ensuite ça va revenir plein nord. Le Mistral il va jusqu'où, Cyril, toi qui connais tout en matière de vent, parce que là on va approcher de Lyon, donc on n'est plus vraiment dans la vallée du Rhône là, hein.
Non, mais il s'arrête à Lyon en fait.
Il tourne à droite à Lyon.
Ouais, il tourne à droite. Soit il part sur Saint-Etienne, soit il part sur Genève.
Voilà, plutôt pour Genève a priori.
N'importe quoi on raconte.
On est fort en vent.
Puisque le vent va tourner, là on est toujours sur une moyenne de 36, mais comme cela va s'accélérer, on devrait donc arriver aux environs de 6h moins 5.
D'accord. 17h55, 18h, on verra si vous êtes bien
Non, 50-55
50-55 même, d'accord. Ok, bah voilà une bonne nouvelle pour les gens qui...
Donc là, ça sera avant le journal.
Ok, bah ça sera parfait. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la musette du Tour de France, la musette de la Dream Team.
RMC Intégral Tour, la musette.
Toutes les petites infos décalées récoltées de ci, de là, au village départ notamment, ou dans les soirées caravanes qui durent très longtemps dans la nuit. Il y en a certains qui sont friands de ces soirées caravanes.
Qui participe à ces soirées?
Frédéric Adam.
Qui est invité? Qui est invité?
Non, ça fait des années qu'on n'y va plus et vous le savez tous aussi bien.
Il y en a plus beaucoup des soirées caravanes d'ailleurs.
Il y en a deux. Il y en a, mais c'est plus que c'était. Et puis surtout, on prend de la bouteille, hein, on prend de l'âge.
On prend de la bouteille. fauteuil.
Et la caravane, elle, est toujours aussi jeune, donc ça devient de plus en plus compliqué de ferrailler dans ce genre de soirée.
Et, oui, et puis il y a un autre problème qu'il faut signaler, c'est que le matin, quand vous reprenez la route, il faut être à zéro.
Exactement. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, Cyril.
être à zéro, non.
Ouais, ouais, c'est les routes du tout. Hein. Nos confrères, nos ancêtres, à la fois consultants et surtout journalistes, avaient quand même l'habitude de.
Ah, mais ça, tout se perd. Hein.
Ouais, bah, tout se perd. Et les nuits du Tour de France que Jérôme a connu à ses débuts, qui était quand même.
Jamais connu.
T'as jamais connu les.
J'étais coureur, messieurs. Ouais. On sort pas quand on est coureur.
Donc c'est depuis que t'as arrêté la carrière.
Non plus, parce que. C'est, je crois bien, plus difficile maintenant qu'avant. Donc, physiquement, je peux pas me permettre de faire durable le soir.
T'as pas une petite adresse à nous donner d'ailleurs, puisque Fred quand même donne les
C'est Fred
adresses.
Le responsable de tout ça. C'est lui qui il le met sur mon compte, mais c'est lui qui connaît ses adresses là par cœur.
On a eu un message d'ailleurs l'autre jour assez sympa d'un monsieur qui a écrit un bouquin sur France Libertine et qui se propose d'ailleurs de t'envoyer son livre gratuitement. C'est très sympa.
Ça m'intéresse pas, merci.
C'est Madame Pinot qui va être très contente. On la salue d'ailleurs.
On la salue. En plus, elle écoute ce samedi après-midi. Elle est pas au boulot.
Écoute, normalement.
On lui fait un gros bisou.
Moi aussi.
Et on lui dit que ce ne sont que des bêtises, évidemment. Mais bon, il faut bien le bisuter quand même. Hein. Il est nouveau sur le tour de France.
Je crois qu'elle a bien compris l'état d'esprit de cette équipe.
Voilà, et qu'il n'y avait pas de fumée sans feu non plus.
Alors, qui veut ouvrir la musette? Peut-être Cyril, justement, qui a des infos importantes récoltées tout au long de la journée.
Oui, alors, hein,
même si le réseau ne passe pas bien dans la voiture, Cyril, qui pèse tous les jours. Mais ça passe pas encore, je peux pas envoyer une mail, je peux pas avoir d'infos. Alors, est-ce que tu as réussi quand même à récolter quelques infos, Cyril?
Pas par les mails, puisque j'en ai plus. Faudrait que je revoie d'ailleurs pour changer d'opérateur.
On donne pas le nom. Hein.
Pourtant, j'ai bien envie de le donner.
Non, on ne donne rien du tout. Ah bon. On donne la musette, c'est tout. L'information.
La musette, mais justement, c'est peut-être ma musette. Non, c'est pas ça. Non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes à la 13e étape de ce Tour de France.
14e.
14e étape, oui.
Oui, mais les infos n'arrivent pas jusqu'à Cyril, toutes les infos.
Et que c'est quand même nous n'avons toujours aucune victoire française.
Oui.
Et non seulement aucune victoire française, mais aucune victoire italienne, ni aucune victoire espagnole.
Oui,
Or, on s'aperçoit que ça n'est arrivé qu'une seule fois qu'à la 13e étape, il n'y ait pas de victoire française, espagnole et italienne. Alors, ce qu'on peut se poser, la question, est-ce que le record sera battu aujourd'hui ou pas? Puisque c'est la 14e étape. Donc, s'il n'y a pas un Italien, un Espagnol ou un Français qui gagne, eh bien, il y aura un record de battu au moins sur ce Tour de France.
Et oui, pas de victoire espagnole, pas de victoire italienne, pas de victoire française. Le vieux continent, qui était quand même, Fred, il faut bien le dire, le cœur du cyclisme pendant des dizaines d'années, avec la Belgique aussi. Mais la Belgique,
je donne la répartition des victoires, vous allez voir qu'il y a quand même un transfert, puisqu'il y a 5 victoires anglaises, 3 du CAV, bien sûr, une de Froome et une de Cunning. Et puis on a 2 victoires de Sagan, une victoire de Degen, un Belge, Van Avermaet, un autre Belge, 2 victoires pour Dumoulin pour les Pays-Bas, une pour l'Allemagne avec Kittel et une pour Matthews pour les Australiens.
Et oui, le cœur du cyclisme a changé de place.
Mais oui, c'est la tendance depuis quelques années maintenant, depuis en fait l'apparition de Lance Armstrong dans la hiérarchie mondiale. Le cyclisme est devenu anglo-saxon et ça s'est évidemment accentué avec l'arrivée des Sky et des Britanniques en général. Il y a eu cette vague, ce vent venu d'Australie également. C'est vrai que le cyclisme, on a l'habitude de le répéter année après année, n'est plus l'apanage des coureurs de la vieille Europe. Aujourd'hui, non seulement on va courir aux antipodes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, sur le continent américain de plus en plus, mais le cyclisme est également occupé par les coureurs et les victoires sont parfois trustées maintenant par des coureurs britanniques. On le voit bien sur cette 103e édition du Tour de France. Le cyclisme est un sport historique à forte tradition européenne, mais on le sait, la tradition est faite pour être bousculée, les records pour être battus, les habitudes pour être un peu diversifiées. C'est vrai que le sport cycliste est de plus en plus exotique. Les coureurs français ont peut-être de quoi s'en plaindre.
Même si on a entendu quand même dans les propos de Cyril, il y a quand même beaucoup de pays européens encore qui remportent des victoires.
Oui, mais pas latins.
Pas les traditionnels. Belgique, ouais. Pays-Bas, oui. Slovaquie également avec avec Peter Sagan, mais pas les pays historiques. C'est ainsi et il faudra s'y faire. Et il faudra surtout batailler pour inverser la tendance, pour renverser la vapeur côté français. Je crois que la dernière fois qu'on a patienté aussi longtemps pour avoir un vainqueur français, on parle pas des Italiens et des Espagnols.
La victoire de Riblon à l'Alpe d'Huez.
La victoire de Christophe Riblon à l'Alpe d'Huez, effectivement, c'était, me semble-t-il, en 2013, c'était il y a 3 ans, donc effectivement Christophe Riblon s'était imposé sur la 18e étape, on en est à 14 aujourd'hui, on a encore un peu de gras, mais il va pas falloir finir Fanny côté tricolore.
Et oui, parce que on avait avant le tour de grandes espérances, Jérôme, hein, c'est vrai que la France est numéro 1 mondial, c'est ce que nous disait Cyril.
Oui, au classement ici, effectivement.
Et là, pour l'instant, avec Fanny sur la plus grande course du monde, l'enthousiasme pour les coureurs français risque de retomber un peu. Hein.
Oui, c'est sûr, on avait de grands espoirs déjà pour le classement général. On a encore Romain Bardet qui est placé, mais pour la gagne, ça semble très compliqué, voire définitivement fini. Et puis surtout sur les étapes, et on a quelques bons grimpeurs encore. Hein. On a vu Pierre Roland hier qui a fait un contre-la-montre plutôt en dedans pour prendre du temps, comme il dit, pour pouvoir se glisser dans les échappées et aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. On a Warren Barguil qui est encore en bonne forme. Romain Bardet peut aussi, lui, aller chercher une étape. Quelques autres Français à Berne, pourquoi pas sur Arthur Vichot, le champion de France, mais c'est vrai que pour l'instant on est un peu déçu. On est un peu à l'image de ce qui s'est passé sur l'Euro, hein, l'Euro 2016. L'équipe de France nous avait enthousiasmé, nous avait promis un beau final, et puis patapoum, lors de la finale, il ne s'est rien passé, en tout cas pas ce qu'on espérait. On a encore 10 belles journées, il y a encore des belles étapes, on espère que les Français vont repasser à l'attaque et aller remporter.
On ne sera pas en finale.
Ils ne seront pas en finale, en tout cas on ne sera pas dans le final, ça c'est sûr, du côté des Français pour le classement final.
Ok, la Musette qui se poursuit, qui va prendre la parole, peut-être Georges Quirino sur la moto. Georges, de quoi vas-tu nous parler?
Ma Musette, par rapport à quelque chose qui s'est passé ce matin au village départ à Montélimar, on a vu le directeur de course Thierry Gouvenou réunir tous les photographes et tous les motards des photographes pour évoquer ce qui s'était passé notamment au Mont Ventoux dans l'ascension et avec la chute de Christopher Froome provoquée notamment par une moto de télévision. Thierry Gouvenou qui a indiqué que l'organisation reconnaissait qu'elle n'était pas forcément exempte de tout reproche dans le final de cette étape, notamment parce qu'il y avait beaucoup de motophotographes qui étaient plaisants et que la mise en place du pool, c'est-à-dire qu'on met en place les motos des photographes de l'équipe et de l'AFP de l'agence. Ce sont les seuls qui viennent dans le final pour prendre les photos des favoris. Ils redonnent ensuite ces photos à tout le monde, à tous les clients. Eh bien, la mise en place du pool n'avait pas été effectuée comme cela devait arriver. Donc, ils ont estimé qu'ils avaient une part de responsabilité. En revanche, la conséquence directe de l'accident de Froome, c'est que désormais, au lieu d'avoir deux motophotographes dans le final, pour désengorger, il y aura désormais plus qu'une moto photographe. Donc, voilà les conséquences de ce qui s'est passé aussi pour les photographes. Et puis, ouais.
Raconte-nous un peu comment ça se passe, justement, à l'avant de la course. Combien il y a de motos autour de toi, juste devant la course, et comment ça se passait l'autre jour dans l'ascension du Ventoux, par exemple. La moto RMC qui fait le direct, elle se place à quel endroit? Est-ce que tu étais vraiment juste devant les hommes de tête, ou là il n'y a qu'une ou deux motos qui prennent place?
On était devant les hommes de tête, en fait, devant les motos de la garde républicaine qui devançaient le groupe du maillot jaune. Donc on était à une quarantaine de mètres, on va dire, du groupe maillot jaune au moment où ça s'est passé, où il y avait énormément de monde. Il y avait quelques motos photographes qui étaient autour de nous, mais derrière le groupe maillot jaune, vous aviez deux motos photographes, la moto de son de France Télévisions qui était là. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans le final. Il y a également des motos de régulateurs de course, de l'organisation, qui s'assurent que toutes les motos sont au bon endroit, que les directeurs sportifs ne viennent pas faire n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de monde tout de même autour du... Ouais.
Et celle qui est le plus proche des coureurs, c'est la moto,
télévision.
Caméra de télévision.
Voilà, exactement.
De France Télévision. Pas seulement de France Télévision, la moto du direct qui, elle, est obligée...
La moto du direct de la caméra.
Est obligée d'être très proche des coureurs pour fournir les images, même si on va le voir, Jérôme, quelquefois, je crois que tu penses toi aussi qu'il ne faudrait pas qu'elle se trouve aussi près des coureurs, cette moto-là.
Mais surtout qu'elle anticipe un peu mieux ce qui s'est passé dans le moment tout, quand il y a beaucoup de monde, il faut anticiper. Certes, on aura une moins bonne image, peut-être, on sera un peu plus loin des coureurs, mais la conséquence de cela, c'est qu'on évitera les incidents, et parfois même dans le final des courses, on le dit, par exemple dans une classique dans les Flandres, ou même sur une étape du Tour, en général on dit le premier coureur qui attaque souvent va au bout. Pourquoi? Parce que il y a ce pool moto, comme le disait Georges à l'instant,
qui le protège,
qui lui crée comme un sas, et on est pris dans l'aspiration, et bien souvent on voit des grands numéros sur le final des courses. On se rappelle de quelques polémiques sur certaines courses en Belgique, et une victoire de Nico Matane sur un grand Wevelgem où il avait profité clairement de l'aspiration des pool moto, et ça c'est un fait. Moi-même dans les chasses, quand j'avais Cavendish dans mon équipe, je profitais largement parfois de la moto qui reculait, qui venait chercher l'image, la belle image. On se met dans le sillage. Je peux vous dire que quand on se met dans le sillage de la moto en première position, quand il y a 590 Pékin derrière, le 190e, il crie parce qu'il dit, attends, il va à quelle vitesse lui? Et ça, quand il y a du monde dans les montagnes comme l'autre jour au Ventoux, eh bien, ça crée un bouchon. La moto est trop près. On n'a pas le temps d'anticiper. Elle freine et les coureurs sont tout de suite dessus et ça crée des incidents.
Ouais. Cyril, est-ce que tu penses que les motos aujourd'hui faussent un peu la course cycliste?
Ah, dans certaines circonstances, Jérôme l'a rappelé, ne serait-ce que Gant Wevelgem qui a quand même décidé du vainqueur. Il y a une trop grande présence. Alors il y a deux formes de motards. Hein. Il y a les motos qui retransmettent les images télévision. Il y a les motos qui emmènent avec eux les photographes ou éventuellement les commentateurs comme notre Georges Quirino. Mais là ce sont des motos qui ont des fonctions. Et puis il y a d'autres motos dont la fonction est d'assurer la sécurité. Donc elles vont doubler le peloton, s'arrêter, redoubler le peloton, s'arrêter, ce qui est effectivement pas très simple. Mais les motos photographes ou les motos télévision, et j'ai presque envie de dire surtout les motos télévision, viennent beaucoup trop près et effectivement créent une aspiration dans lequel vont s'engouffrer les coureurs pour bénéficier de cette aspiration. Et de nombreuses fois on a vu soit des coureurs revenir sur l'échappée ou soit des échappées s'en aller grâce à cette aspiration.
Alors qu'est-ce que vous préconiseriez, messieurs? Uniquement des images aériennes du Tour de France?
Ah, mais les images aériennes ne sont pas si mal que ça. Elles expliquent d'ailleurs souvent beaucoup mieux la course, parce qu'on a un champ de vision beaucoup plus large que les motos. Mais c'est vrai que les motos, et regardez par exemple dans les descentes de col, le nombre de fois où les coureurs sont, alors là c'est à l'inverse, sont gênés par les motos parce que les motos ne prennent pas suffisamment d'avance pour attaquer les différents virages qui se succèdent, parce que si la moto peut accélérer plus vite, et comme on veut rester le plus près pour faire des images pratiquement à 2 mètres, le problème c'est que la moto avec le caméraman elle freine pas comme le vélo. Et là, les coureurs rentrent dans les motos, ou les sorties de virage, ils tombent sur les motos. Et ça, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est simple, il faudrait tout simplement améliorer les zooms. Hein.
C'est pas la panacée, les hélicos. Il me semble bien que tu as un coureur qui a perdu le Giro à cause d'un hélico, non?
Non, mais là, tu fais de la provoque. Parce que
faut mettre des drones, alors. Des drones, ça fait moins de...
L'hélico, il peut prendre de très très belles photos parce qu'ils ont des zooms qui le permettent. Il n'est pas obligé d'être à 20 mètres au-dessus du peloton. Donc à 70 mètres, 100 mètres au-dessus du peloton, vous faites de très très belles images sans provoquer de turbulence au niveau des coureurs, et il reste toujours un petit peu le problème du son, mais à 100 mètres ça peut aller, mais il faudrait effectivement qu'il soit à une centaine de mètres. Mais les moyens techniques permettent de le faire, hein.
Jérôme, faut mettre plus que des drones aujourd'hui sur le cours cycliste.
Non, c'est comme tout, il faut s'adapter, il faut prendre le large quand il le faut. Sur des étapes comme aujourd'hui, on est très heureux d'avoir des belles images de très près, des coureurs qui mènent l'échappée ou le peloton, mais dans certaines circonstances, il faudrait peut-être aussi des fois sacrifier la qualité de l'image pour revenir à une course plus sécurite pour les coureurs.
Voilà. Alors si effectivement on n'avait pas eu de moto l'autre jour dans le Ventoux, il y aurait peut-être pas eu d'accident, mais on n'aurait pas eu non plus les images de Chris Froome en train de courir.
Oui, mais attendez, là vous parlez d'une conséquence qui devient un exploit.
Exactement.
Donc il faut provoquer des incidents pour avoir de belles images. Là on tourne un petit peu en rond. Hein.
Bon ben en tous les cas, nous on est content qu'on ait notre George et notre Marco quand même à l'avant de la course pour nous raconter ce qui se passe au plus près de l'action. C'est vrai que c'est quand même le seul sport où les caméras de télévision sont aussi proches, hein, Fred, de la course. Je vois pas d'autres exemples, même si évidemment aujourd'hui les progrès techniques permettent de voir des choses de très près dans un match de foot avec des loupes, dans les matchs de rugby ou même dans les grandes compétitions d'athlétisme.
Non, je vois
même
pas.
En natation,
sur
on
le
a
marathon,
des images
sur le marathon peut-être parfois sur le marathon maintenant il y a des motos caméras qui accompagne de la même manière que les coureurs cyclistes. Pour l'instant, ça n'a pas causé de dégâts, d'accidents.
On n'est pas à la même vitesse. Hein.
Sinon, il y a les caméras embarquées sur les casques des pilotes, des motards. Mais on parle pas du tout de la même chose, évidemment.
Allez, on va s'arrêter quelques instants. On va reprendre la musette dans une petite minute sur les routes du Tour. Combien de kilomètres encore, Fred, à parcourir?
53 kilomètres avec 1 minute 30 d'avance pour un quatuor de tête composé du français Roy, de l'italien Benedetti, de l'américain Howes et du suisse Elmiger. L'écart qui continue de fondre, 1 minute 30, ça veut dire que les voitures des directeurs sportifs situés entre la tête de course et le peloton vont être obligées de s'écarter, de laisser passer le peloton. Il n'y aura plus personne pour assister les hommes de tête dans quelques instants.
Allez, on se quitte quelques instants et on revient pour le final de cette étape longue, très très longue, en direction de Villars-les-Dombes. Tout à l'heure, tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours pour l'intégrale Tour de France, 14e étape aujourd'hui en direction de Villars-les-Dombes, le peloton qui a beaucoup de retard. Il ne se trouve encore à 50 km de l'arrivée. Enfin, ce sont plutôt les échappés qui se trouvent à 50 km. Le peloton est un petit peu plus loin derrière, mais l'écart se réduit, Fred, entre les échappés et l'avant-garde du peloton. 1 minute 33 d'avance.
Oui, stabiliser cette avance pour le quatuor de tête composé, on vous le rappelle, du français Jérémy Roy, de l'italien Benedetti, de l'américain Alex Howes, du suisse Martin Elmiger. On est passé tout à l'heure au sprint intermédiaire, le seul sprint intermédiaire de la journée, à Lafayette exactement, sur les routes de l'Isère. Et derrière les quatre hommes de tête, c'est comme de bien entendu Peter Sagan, porteur du maillot vert, qui est passé en tête du peloton devant Marcel Kittel. Peut-être un avant-goût du sprint annoncé ici à Villars-les-Dombes au terme de cette 14e étape, une étape de transition très longue avec vent de face. Encore 50 km tout rond à parcourir pour l'ensemble de la course. Le quatuor de tête ne compte plus qu'une minute 27 d'avance sur un peloton qui gère parfaitement son affaire.
Voilà, une étape au bout de l'ennui quand même, il faut bien le dire. Le spectacle n'est pas vraiment présent aujourd'hui sur les routes du Tour avec ces quatre hommes échappés et qui font le yo-yo avec le peloton. On a hâte que ça se termine, cette histoire-là, mais il faudra encore patienter 50 km. On va donc poursuivre la musette puisqu'on va un peu se désintéresser de la course jusqu'à l'emballage final et au sprint, la musette qui se poursuit. Pierre-Yves Leroux est avec nous. Il nous a rejoint, notre barde international. Ça va, monsieur Pilou?
Ça va très bien. Bon. Très, très bien.
De quoi allez-nous vous parler?
Oui, c'est cela.
Allez-vous nous parler?
Elle est longue pour tout le monde, cette étape.
Eh bien, surprise sur la route du Tour, il y a quelques minutes, quand on a remonté la caravane pour venir jusqu'à l'arrivée, il y avait un coureur de l'équipe Tinkoff qui était en avance avec une voiture qui le suivait, mais largement devant le peloton, largement devant la caravane. Donc évidemment, on s'est demandé
quel dossard qui arrive.
Il n'y avait pas de dossard. C'était tout simplement le patron, Oleg Tinkov, qui roule, qui fait quelques kilomètres sur la route du Tour, qui fait plaisir, voilà, au milieu des spectateurs. Il a pris une douche il y a quelques jours, d'ailleurs, à côté de sa voiture, avec un arrosoir qui était renversé sur lui. Il était nu au bord de la route, voilà, tranquillement. Donc la route est à lui, mais surtout la petite info importante, on en a parlé ces derniers jours, c'est qu'Oleg Tinkov a dit si Peter Sagan gagne 3 fois sur ce Tour de France,
je continue.
On est à 2, il en reste une.
Je continue mon investissement dans le cyclisme.
Voilà.
L'équipe Dinkov doit s'arrêter à la fin de la saison.
Voilà, c'est la fin logiquement. Donc il y a un peu de suspense. En fait, il n'y en a pas vraiment, puisqu'il a dit à des journalistes, Peter Sagan a signé chez Bora. Et il n'y a pas de raison que je continue.
Voilà. Ouais, donc, chez Peter Sagan, qui est son coureur vedette et son chouchou, il adore Peter Sagan. Même si les relations n'ont pas toujours été au béfixe entre les deux hommes.
Je suis pas sûr que dans l'autre sens ça marche.
C'est une grosse musette quand même, l'officialisation du transfert de Peter Sagan chez Bora.
Oleg Tinkov dit Bora offre plus d'argent de toute façon que moi, donc. Voilà, il n'y a pas de raison que je continue.
Bora qui est une nouvelle équipe, plutôt une nouvelle venue, Fred. Ça fait combien de temps?
Il y a quelques années.
Sont sur le tour.
Elle a été créée en 2010 et je dirais que ça fait 3 ans qu'elle est sur le tour. C'est une équipe qui n'est pas dans la catégorie World Tour, dans l'élite du peloton international. C'est une équipe qui est au même titre que Direct Energy ou Cofidis notamment. Une équipe invitée par les organisateurs du Tour de France. Elle fait partie en quelque sorte de la deuxième division du peloton cycliste, mais nul doute que si elle a les moyens de recruter Peter Sagan, ça veut dire qu'elle va postuler à une place dans le World Tour l'année prochaine, parce que son budget va être considérablement augmenté.
Alors après, on connaît Oleg Tinkov, est-ce qu'il est là dans la provocation ou pas, on va le savoir très rapidement, mais en tout cas, je pense que l'aventure va se terminer.
Oui, ouais. ça fait quelques jours qu'on parlait de Peter Sagan chez Bora, ça paraissait surprenant au vu du budget actuel de l'équipe allemande, mais il semble là, Bora a notamment présenté en Normandie à la veille du départ du Tour un nouveau co-sponsor qui est arrivé, et donc le budget va être effectivement sensiblement augmenté. Nul doute que Peter Sagan va arriver chez Bora avec dans ses valises des équipiers, des membres du staff. Quand on se permet de recruter un coureur d'une telle dimension, évidemment, il ne vient pas tout seul, il ramène du monde et du beau monde en général.
Voilà, Bora qui participe pour la 3e année consécutive au Tour de France. Ils avaient commencé en 2014 et ils étaient également là l'année dernière. C'est vrai qu'on cite beaucoup les marques quand même dans le vélo, Fred. D'ailleurs, je crois que tu vas nous en parler dans ta musette.
Allez, oui.
Encore un petit coup de musette encore.
Allez.
Un petit coup de musette. Non, pas de musette pour Fred.
Une musette caravane aujourd'hui, un peu à l'extérieur du Tour, mais c'est dû aux circonstances dramatiques, puisqu'on vous rappelle que la course s'est bel et bien poursuivie hier avec son contre la montre en Ardèche. On se demandait si le Tour de France devait se poursuivre. Elle est là, la musette. Le Tour de France se poursuit, la course se poursuit et le show également, mais on va dire dans une moindre mesure qu'en temps normal. C'est-à-dire que sur la ligne d'arrivée, les speakers font toujours vivre la course, font toujours la promotion des marques partenaires du Tour de France, mais il n'y a pas de musique par exemple. Le ton est beaucoup moins enthousiaste, moins enjoué que les jours précédents. La caravane publicitaire existe toujours, mais elle n'est plus au niveau d'enthousiasme.
Elle n'est plus aussi festive.
Absolument. On accueille dans le camion studio RMC Boris Pérol, qui est membre de l'agence événementielle et l'agence de communication Idéactive. Bonjour Boris.
Bonjour.
L'agence Idéactive a en charge, c'est combien? C'est 7 marques de la caravane publicitaire? 6, 7 marques?
Exactement, 7 marques, oui.
7 marques. Il y a combien? 35, 40 marques dans la caravane du Tour de France?
À peu près, oui.
C'est quoi une caravane pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais eu la chance de regarder?
Les gens viennent voir davantage. Sur le bord des routes quasiment plus la caravane publicitaire que les coureurs cyclistes.
Boris, c'est quoi une caravane d'une marque?
Une caravane, c'est un cortège de véhicules qui va être habillé aux couleurs d'une marque. Alors quand je dis des véhicules, c'est au sens large du terme, parce que ça peut aller de la simple petite voiture à des chars événementiels spectaculaires. concert avec des décors, des animateurs, des hôtesses qui distribuent des cadeaux aux gens au bord de la route. Effectivement, c'est une vraie fête à part entière.
Il y a combien de véhicules en gros par marque, 4-5?
Ça peut aller de 2 véhicules pour les plus petites à 10 véhicules pour les plus importantes.
D'accord. Et donc les marques payent la société du Tour de France pour pouvoir participer à cette caravane publicitaire. C'est quoi les budgets? Combien ça coûte par voiture, par véhicule?
Alors les budgets peuvent aller, enfin c'est extrêmement variable. On peut avoir des très petits budgets
petit dispositif du coup.
C'était très juste, voilà, c'est que quand on a peu de véhicules, finalement les budgets sont plutôt serrés, et quand on a énormément de véhicules, là on peut approcher les plusieurs centaines de milliers d'euros de budget.
Et le but c'est aussi de trouver des véhicules aux formes diverses et variées,
originales,
de plus en plus originales,
impactantes,
exactement, pour captiver l'attention du public, pour partager le maximum de choses avec lui, lui faire vivre une expérience de marque.
Alors on t'accueille Boris parce que bien depuis hier cette caravane se transporte de ville en ville et sur les routes de l'étape sans musique, de manière beaucoup moins festive qu'à l'accoutumée. Comment ça se passe et quelles sont les obligations? Parce que j'imagine qu'il y a des consignes de la part de l'organisateur du Tour.
C'est la caravane silencieuse, effectivement. Voilà, il y a un arrêté préfectoral qui oblige les caravaniers, qui les oblige, et je pense que la plupart sont d'accord,
à adopter. Donc sur chaque département, il y a un arrêté préfectoral.
On a un arrêté préfectoral
sur le territoire français.
Exactement.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Qui nous invite à stopper la sonorisation des véhicules et à adopter évidemment une attitude plus mesurée, moins festif que d'habitude.
Ouais. Et est-ce que la distribution de petits gadgets se poursuit quand même?
Bien sûr, et je pense que le message aussi qu'on veut faire passer par là, c'est on marque le coup, on est tous touchés et concernés par ces incidents, mais la vie continue, la caravane continue, le Tour de France continue.
Et le business aussi, il faut bien le reconnaître, le Tour est un grand business, n'en déplaise à certains, c'est ainsi que va le monde, et c'est vrai que la caravane fait partie du spectacle Tour de France.
Elle fait partie de l'histoire du Tour de France, elle a toujours été présente, Cyril. Lorsque tu as débuté ton premier Tour de France, la caravane était déjà là. Cyril, il préfère pas répondre à cette provocation.
Personnellement, j'ai des souvenirs de...
Toi, tu as commencé, tu as fait ton premier tour dans la caravane.
Non, au village départ. J'étais plutôt côté hôtesse à l'époque. C'était mal. J'étais dans mes grandes années. Non, mais par exemple, tout le monde se souvient de la caravane Banania qui distribuait du cacao en poudre sur le bord des routes. Chez Ideactive, je crois que vous avez les caravanes Senseo, Xtra, Banette, des marques emblématiques. La caravane Vittel est très remarquée également sur les routes du Tour. Oui, ça fait partie.
Caravane RMC il y a quelques années, qui est resté 2-3 ans et qui a plié bagage finalement au bout d'un certain temps. Donc ça fait partie de l'histoire.
On a même vu aujourd'hui des pancartes sur le bord de la route. Allez la caravane, c'est dire c'est populaire. Il y a beaucoup de personnes qui attendent la caravane avant tout.
C'est quantifiable, mais je pense que c'est quoi? C'est la moitié des personnes qui viennent pour la caravane.
Un peu plus de la moitié des spectateurs au bord des routes viennent d'abord pour la caravane avant les coureurs.
Ah, c'est pas étonnant.
Ouais, c'est bien sûr. Combien de jours la caravane restera-t-elle silencieuse, Boris?
Demain compris.
Encore.
Voilà, encore demain. Et après, s'il n'y a pas de nouvel ordre d'ici là, elle reprendra son cours normal.
3 jours de silence donc pour la caravane publicitaire sur le Tour.
Et la caravane publicitaire, les premiers véhicules publicitaires sur le Tour datent de 1924. Donc vous voyez, c'est pas récent. Et
donc Cyril les a connus.
Non, il ne les a pas connus. Il n'était pas né, il n'était qu'une lueur dans le regard de son papa à cette époque-là. Merci Boris en tous les cas d'être venu donner cette petite information. Et la caravane, comme la vie continue évidemment dans notre beau pays. Merci beaucoup. On va repartir sur la course puisqu'on sera approche tout doucement, Fred. On va faire un petit point avant de s'interrompre quelques instants. Combien de kilomètres encore à parcourir? C'est long, c'est très long.
43 km 500 avec vent contraire. Le Mistral continue de souffler. On va bientôt s'écarter du couloir rhodanien pour aller chercher les routes du département de l'Ain. 43 km 500 et un quatuor de tête qui compte désormais une minute d'avance sur un peloton conduit évidemment par les équipes de sprinteurs. C'est tout plat cette deuxième partie d'étape. 4 hommes en tête. Jérémy Roy, le français de la FDJ, accompagné de l'italien Benedetti, de l'américain Alex Hawes et du suisse Martin Helmiger. Dans quelques kilomètres, tout va s'affoler pour une explication a priori entre Bolide, les Cavendish, Kittel, Greipel, Sagan ou encore Brian Coquard devrait s'expliquer ici dans le parc des oiseaux, baigné de soleil aujourd'hui.
Le coq va-t-il chanter dans le parc?
parc des oiseaux tout à l'heure, on l'espère, on lui souhaite évidemment. On va en parler dans quelques instants. On va quand même s'intéresser à la course et à cette étape qui devrait se terminer un petit peu avant 18h, nous disait le Druide tout à l'heure. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h44 sur RMC, l'intégral Tour de France. Nous nous rapprochons tout doucement de l'arrivée de cette 14e étape qui sera jugée tout à l'heure à Villars-les-Dombes dans ce magnifique parc ornithologique baigné de soleil. On va revenir également dans quelques instants avec Dédé qui va nous dire que les oiseaux c'est bien beau, mais les oiseaux ça fait des nids, ça donne du travail au gros Léon. Dans un instant, ce sera avec Dédé. On va également parier dans deux minutes parce qu'on va quand même se rapprocher de l'arrivée. On fait un tout petit point quand même, l'écart des quatre hommes de tête qui continue de descendre.
Oui, c'est très progressif, très progressif. 1 minute 06 d'avance, ça sent la fin de l'aventure pour ce groupe de 4 coureurs sortis au kilomètre 28 à l'initiative de Jérémy Roy, le français de la FDJ qui est accompagné, on vous le rappelle, de l'américain Alex Howes, de l'italien Cesare Benedetti et de l'ancien champion de Suisse et ancien coéquipier de Jérôme Pinot, Martin Helmiger, coureur de la formation YAM Cycling. 1 minute 06 à combien, une trentaine de kilomètres de l'arrivée,
40 je crois.
Ah, 40 encore. Et bien ouais, c'est long, c'est long. On vous rappelle que le Mistral continue de souffler. Qui dit Mistral dit vent du nord, et quand on remonte le couloir rhodanien, évidemment on se le prend de face. Évidemment, 41 km de l'arrivée, 1 minute tout rond d'avance sur le peloton pour ces 4 hommes de tête.
Tiens, quelques chiffres concernant la caravane dont on a parlé il y a quelques instants, Fred. Il faut savoir que le record du nombre de véhicules a été atteint en 2006. Il y avait 219 véhicules dans la caravane publicitaire, et désormais ce chiffre a été réduit par les organisateurs du Tour. On est aux alentours de 180 véhicules
pour des questions de sécurité.
Voilà, pour des questions de sécurité. Et il faut savoir que selon une étude réalisée en 2013, 47% des spectateurs qui s'amassent sur le bord des routes viennent pour voir la caravane publicitaire passer. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 10 millions de gadgets qui sont distribués tout au long des étapes de ce Tour de France. Donc effectivement, ça fait partie du spectacle, au même titre que les coureurs cyclistes qui, eux, ne donnent pas de cadeaux. Dédé donne-t-il des cadeaux? Bah, je sais pas. Déjà, il faudrait le retrouver, ce Dédé.
Il est où, ce Dédé?
Il ferait bien d'en donner des cadeaux, parce que c'est pas un cadeau, Dédé. Hein.
Ouais, c'est bon. Ça. André Bancala de l'Assemblée des départements. André,
je viens vous voir et je me fais pourrir.
Tu files des cadeaux, est-ce que t'es dans la caravane publicitaire, toi?
Non, on n'est pas dans la caravane publicitaire. Nous, on est devant et on est derrière. C'est-à-dire qu'on est devant pour vérifier la route avant. Et ensuite, on est derrière pour éventuellement corriger les quelques petites imperfections que nos amis caravaniers auraient pu laisser sur la route. Par exemple, quelques babioles qui ont été ramassées, des casquettes.
Surtout avec le vent, là, les petits gadgets volent.
Chance Dédé, devant, derrière.
Je suis partout.
Je suis partout, oui. Attention, c'est pas très bien. Alors Dédé, il y a les gadgets que laisse la caravane publicitaire. Puis il y a les oiseaux qui font des leurres aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le fuligule morillon, par exemple, qui nous laisse un certain nombre de paille, de fétus de paille, et puis avec le vent, tout ça est ramené, ramené sur la chaussée. Et la dernière intervention de Gros Léon, de cette balayeuse bien connue, ça va être passer sur la ligne, en fait, à 100 mètres de la ligne, entre 300 et 100 mètres de la ligne. Il y a énormément de paille, légèrement en virage, et c'est évidemment dangereux pour une arrivée groupée du peloton. Et là, la balayeuse va passer plusieurs fois pour repousser cette paille qui est quand même en grande quantité et qui serait véritablement très glissante si le peloton s'y aventurait
comme
ça.
Bon pour les, pour
non,
les,
pas du tout, pas du tout.
Pour les roues des coureurs, ça, la paille, c'est bien pour aller faire la sieste, Jérôme.
Ah ouais, c'est clair, et puis ça aussi un problème au niveau des dérailleurs. S'il y a un peu de paille se met, aujourd'hui la mécanique est tellement fine que si de la paille se met sur la chaîne des coureurs ou dans le dérailleur qui est électrique maintenant, ça peut poser de véritables soucis pour les coureurs, effectivement.
Concernant le tracé de l'étape, le final, on a reconnu ça tout à l'heure avec Cyril, il n'y a pas de difficulté majeure, mais il y a quand même une arrivée un peu en virage, un peu
incurve. Oui, il y a deux virages à 90 degrés qu'il faudra habilement négocier. L'autre élément, c'est un public qui est extrêmement nombreux. dangereux sur les derniers kilomètres. Autant en début d'étape ou en milieu d'étape, c'était tranquille, il y avait du monde, mais c'était sans excès, sauf au passage des côtes. Là, en revanche, le final, il y a énormément de monde sur des routes qui sont devenues un petit peu plus étroites, à l'exception du final qui s'élargit. Et puis ces deux virages à 90 degrés qui pourraient emmener tout le monde au tapis si c'était pas très propre.
Mmh. Et moi, Dédé, on a fait la course aujourd'hui, on a fait le parcours, et sur les 25-30 derniers kilomètres, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'îlots, de ronds-points et surtout de ralentisseurs.
Tu as un œil très aiguisé, bah, c'est le record, 59 ronds-points, c'est le record du Tour 2016. On est aujourd'hui.
Faut pas effaroucher les oiseaux,
Il y a deux jours, c'était déjà le record.
C'était record, c'était pas les rétrécissements.
Exact.
Là, on bat des records tous les jours sur la route.
Et là, on est sur, en gros, 200 points durs recensés sur le tracé, 200 points délicats à protéger, à baliser, et donc énormément d'îlots directionnels, énormément de changements de direction et de rétrécissements et de ronds-points aujourd'hui.
Très bien. Juste un petit mot sur l'étape de demain, avec une route qui va à nouveau s'élever.
Et
un col que le peloton du Tour de France a appris à découvrir récemment, je crois, le col du Grand Colombier. C'est la deuxième fois seulement que les routes du Tour passeront là-dessus. C'est un paysage, un panorama magnifique.
Superbe.
Une route
qui est surtout une descente qui est quand même raide. Les équipes du département ont évidemment nettoyé, préparé la chaussée comme à chaque fois sur les routes de montagne, et les patrouilleurs du département seront à pied d'œuvre dès l'aube pour refaire une passe et éventuellement repousser quelques caillasses qui seraient tombées des parois.
Vous avez été parfait comme d'habitude, mon cher Dédé. On vous remercie
beaucoup
de votre présence ici dans ce camion. On vous dit à demain pour d'autres informations.
Et je reviens.
La particularité de l'étape de demain, est-ce qui pourra poser problème aux coureurs mais aussi aux équipes de notre DD national, c'est que on va passer deux fois dans cette descente, et deux fois lorsque les directeurs sportifs parfois dépassent les coureurs, vous savez, on s'écarte bien des coureurs, on met parfois les roues dans le bas-côté et ça remet de la terre, des cailloux sur la route, et ça, il va falloir être très vigilant à cela. C'est pour ça aussi que c'est très rare que l'on passe deux fois au même endroit sur une même chaussée dans un grand tour.
OK, merci André, merci Jérôme, tu restes avec nous, c'est pas fini, rassurez-vous, il est que 16h50 et encore 1h10 à passer ensemble sur les routes de ce Tour de France, 37 500 km. On va donc parier sur cette étape, la victoire d'étape en tous les cas, en accueillant Benji dans un instant.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker.
Salut Benji.
Salut messieurs.
Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à donner un vainqueur d'étape un de ces jours. Ce serait pas mal. Ça nous permettrait de repasser en positif peut-être, parce que là, on continue de s'enfoncer dans les tréfonds du classement des paris. Alors, quels sont les favoris à l'heure qu'il est, à maintenant quoi, une heure de l'arrivée de cette course?
Le favori n'a pas changé depuis hier soir. C'est toujours Marcel Kittel, le coureur allemand, qui est favori. 2,40 pour Marcel Kittel. Et derrière, tous les sprinteurs sont là. Marc Cavendish, 2,85. André Greipel à 5,40. Et puis Alexander Kristoff à 10. Brian Coquard ensuite avec Peter Sagan. De toute façon, la Dream Team des Paris RMC, Christophe, avait donné une arrivée au sprint, puisqu'on va rappeler les pronos, mais tout le monde avait donné une victoire d'un sprinter.
Ouais, on va rappeler les pronos. Jérôme, tu avais misé sur...
Je suis sur l'amitié, moi. Donc, c'est ou Coquard ou Cavendish, mais là, on est sur du Cavendish plutôt.
Voilà, Marc Cavendish pour Jérôme, qui signerait là donc sa quatrième victoire, qui lui permettrait de se rapprocher un peu plus encore d'Eddie Merckx en atteignant le chiffre de 30, je crois. Hein,
30 si, et si Eddie Merckx, ça doit être 34
pour Eddie Merckx. Cyril.
Oui.
Ton favori pour le sprint
moi,
de tout à l'heure.
Oui, c'est bien Greipel que j'ai donné, moi.
Oui, tout à fait.
Mais faut pas qu'on lui ferme la porte.
Oui, ben on verra ça.
Tiens, en parlant de la porte, ce sera.
Oui, justement, c'est par rapport à la porte.
Ce sera mon favori.
Ouais. Christophe Laporte.
Ah oui. Le coureur de l'équipe Cofidis, qui doit avoir une cote assez sympa, Benji.
Oui, 60, la cote de Christophe Laporte.
Faut y aller.
Cofidis qui s'est interposé la dernière fois qu'il y a eu une course ici au Parc des Oiseaux, puisque c'est Nasser Bouani qui s'est imposé sur cette même ligne d'arrivée l'an dernier au Dauphiné Libéré.
Ça correspond plus au profil de Laporte que de Coquard aujourd'hui, Cyril, cette.
Bon, ça dépend des trains, ils sont au même niveau tous les deux. Hein, on n'a pas le train de Kittel, on n'a pas le train de Cavendish, on n'a pas le train de Cork suite Cavendish, et la joue beaucoup plus fine.
Il est amputé,
et puis et puis celui de Greipel. Mais à signaler, il va falloir faire quand même très attention, et je suis toujours surpris d'ailleurs qu'on puisse faire des lignes d'arrivée de cette façon-là. On a quand même un virage dans les 200 derniers mètres en courbe très très rapide avec un vent qui va arriver de gauche. La dernière fois que j'ai vu une arrivée comme ça, enfin pas la dernière fois, mais c'était sur le tour à Saint-Malo, et ça avait été par terre.
Ouais. Donc t'es plutôt pessimiste pour l'arrivée tout à l'heure. Ça pourrait occasionner une chute. Hein.
Il me semble que le règlement dit les 200 derniers mètres doivent obligatoirement, je parle pas en montagne bien sûr, mais sur ce type d'arrivée, les 200 derniers mètres doivent être en ligne droite et d'égale largeur. Et là, ça n'est pas le cas.
Ça n'est pas le cas. Nous verrons ça donc tout à l'heure pour ce qui devrait se passer pour cette 14e étape à l'arrivée, une arrivée au sprint. Benji, toi, ton vainqueur, c'est qui déjà ?
Moi, c'était Peter Sagan.
Peter Sagan, et moi je crois que j'ai donné Marcel Kittel.
Exactement, tu as donné Kittel.
Georges Quirino, on lui a pas posé la question. Georges, il a peut-être un vainqueur à nous donner, un pronostic en tous les cas.
Moi je vais suivre le druide, et je vais dire Caro Gori, au Gori de Rostock, le surnom de Greipel, qui fête son anniversaire.
C'est 34 ans aujourd'hui.
Il pourrait avoir une belle histoire tout à l'heure.
Ok, on l'espère en tous les cas. Ça va pas tarder. Plus qu'une heure de course. Merci Benji, on te retrouve tout à l'heure à 19h40, évidemment, pour évoquer tout cela et pour faire le point sur les paris RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Fred, on va faire un point donc sur la course, puisqu'ensuite on va laisser passer les infos de 17h et ensuite se concentrer sur le final de cette étape, puisque ça se rapproche et le peloton se rapproche également des hommes de tête qui ont passé pas mal d'heures en tête, mais qui n'ont plus que quelques minutes à vivre seuls devant la course.
Avec effectivement l'avance des 4 hommes de tête qui est passée sous la minute. On est à 34 km de l'arrivée et l'avance est désormais de 50 secondes sur les longues lignes droites en direction de Villars-les-Dombes. L'arrivée au Parc des Oiseaux, magnifique Parc des Oiseaux, baigné de soleil aujourd'hui dans le département de l'Ain. Les 4 fuyards à portée de fusil et en vue du peloton lancé à sa poursuite de manière assez raisonnée pour l'instant. On ne s'affole pas pour revenir sur la tête de course. Un quatuor de tête toujours composé de Jérémy Roy, le français, l'italien Benedetti, l'américain Howes et le suisse Elmiger. 48 secondes au dernier pointage à 34 km de l'arrivée.
Eh bien nous, on va se retrouver juste après les infos de 17h pour vivre le final de cette étape qui devrait s'achever aux alentours de 17h50. À tout de suite sur la route du Tour pour le final de cette étape longue, très longue même.
RMC Intégral Tour.